Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venus très nombreux pour nous écouter parler de la place des images dans les jeux de rôle et dans les jeux vidéo. Alors, bon, les jeux vidéo, on les présente plus. Les jeux de rôle, on les présente encore parfois. Y a-t-il beaucoup de rôlistes dans la salle ? Levez la main, on va faire un comptage rapide. Ah, n'ayez pas honte, c'est bien. Donc, la place de l'image dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, avec Aurélien Rebondy, Nicolas Fructus, Fred Pinson et Alexis Bricklot, que je vais laisser se présenter les uns les autres. Quel est votre background et quelle est votre quête, comme on dirait en jeu de rôle, quelle est votre actualité ? Qui commence ça ?
Bon, ben, je fais le démarrage. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en illustration. J'ai commencé d'abord en illustration, sauf que très vite, c'était une époque où l'illustration était sinistrée. Il y avait pas mal d'autres domaines qui démarraient. Il y avait le dessin animé, jeux vidéo, qui était au début des années 90. Et donc, assez naturellement, j'ai travaillé pour tous ces domaines. Et puis après, il y a eu des longues phases où le jeu de rôle est revenu petit à petit. Moi, c'est un domaine dans lequel je rêvais de travailler, mais qui avait une sorte de non-vie économique. Donc, j'ai laissé ça traîner pendant des années.
On peut en citer deux ou trois pour donner une idée de tes collaborations.
Westland et les Féales.
Plus récents.
Les Féales, voilà. Pour les plus récents. Mais j'ai pas fait non plus...
Cadouallon.
Oui. oui, beaucoup de développement, là. Donc voilà, c'est un parcours émaillé à la fois dans l'illustration et la production en fonction des périodes. En fait, j'ai toujours eu en gros 3 ou 4 boulons simultanés, et puis en fonction de la croissance de tel ou tel domaine, ça me permettait d'être sur tel ou tel domaine. Voilà.
Aurélien ?
Oui, alors mais moi j'ai un parcours qui m'a finalement amené aux jeux vidéo aujourd'hui. Depuis quelques années, je me suis orienté dans l'écriture et le design de jeux vidéo, mais j'ai quelques incohérences avec l'illustration parce que j'avais commencé une formation de dessin d'animation pour le dessin animé, mais bon, ma famille trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés à l'époque quand je voulais faire ça, donc je suis retourné faire des études. J'ai fait des études de philosophie qui n'avaient un peu rien à voir, et finalement pour écrire des scénarios et du gameplay sur des jeux vidéo. Et le jeu de rôle, j'ai connu en tant que joueur dans mon adolescence. J'y étais attaché parce que j'avais passé des très très bons moments, mais effectivement, je voyais pas de métier partir derrière ça jusqu'à ce que je collabore sur un projet de jeu vidéo lié à un jeu de rôle sur lequel j'ai un peu participé d'ailleurs finalement, et que donc je me retrouve à découvrir le jeu vidéo en production, en illustration et. Est-ce que ça pouvait impliquer aussi dans la réflexion qu'on peut avoir sur sa présentation pour le jeu vidéo aujourd'hui ?
Oui, Alexis. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Alexis Bricklot. J'ai travaillé à la fois pour du jeu de rôle, effectivement. J'ai commencé un petit peu là-dedans à mes débuts, on va dire. J'ai également travaillé dans la bande dessinée, le comic books et le jeu vidéo. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas citer les jeux de rôle...
Un ou deux pour donner une idée de tes collaborations. C'est plutôt la fin des années 90, le début des années 2000.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
Ouais, ouais.
Et effectivement, quoi. Ouais. Bon, on pourra peut-être rentrer après un petit peu plus dans les détails. J'ai commencé dans les jeux de rôle français. Il y avait la revue Backstab. Il y avait le jeu de rôle Prophétie, qui était une création française. Cendre, Vermine, Néphilim, Cops. Ensuite, je suis passé également à travailler
Cops.
Pour des...
Cops voilà. À l'écran, là.
Exactement, qui est un petit peu tiré. J'avais utilisé des photos d'amis. Là, c'était un petit clin d'œil, je me faisais plaisir. Sur la droite, là, j'avais besoin d'occuper un petit peu d'espace. Et puis quoi d'autre, en fait des jeux de rôle US. Je pourrais parler de Magic the Gathering, le jeu de cartes pour lequel je travaille beaucoup, mais c'est pas tout à fait du jeu de rôle. Donjons et Dragons, Vampire, Requiem. Voilà, enfin, ça c'est pour toute la portion jeu de rôle.
L'autre chose, c'est que je suis pas déjà une carte de visite longue comme le bras.
Ouais, oui, c'est pas mal, oui, j'ai pas beaucoup de travail. Et donc je ne suis pas rôliste, j'ai jamais joué de ma vie, j'ai toujours été entouré par énormément de rôlistes autour de moi, et je pense que moi je me fais mes petits films en travaillant sur les concepts, en développant les projets, plutôt qu'en faisant les parties, mais j'y vois, de ce que j'en connais, énormément de similitudes.
Et Fred ?
Bonjour, donc c'est bon. Oui. Donc je m'appelle Frédéric Pinson. Moi, étrangement, j'ai commencé par le jeu de rôle. C'est enfin, comme beaucoup d'entre nous finalement, c'est vrai que moi j'ai commencé à 8 ans à faire du jeu de rôle, donc particulièrement jeune, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis quand je me suis lancé en tant que freelance, j'ai démarché toutes les maisons d'édition, je ne me suis même pas posé de questions, tout le monde y a eu le droit. et finalement les premières à m'avoir répondu, ça aura été des maisons de jeux de rôle. Donc finalement j'ai un peu commencé à faire mes armes là-dedans. Je suis relativement jeune dans le métier, mais contrairement aux autres. Et voilà, donc petit à petit, c'est vrai que j'ai fait ma place. Donc pour citer les deux univers principaux pour lesquels j'ai travaillé, ça va être donc Terra Incognita.
Terra Incognita. Voilà. Édité par les 12 singes.
Et Les Ombres d'Esteren, donc aux éditions Agathe.
Hop.
Ça c'est mon blade.
Voilà un visuel des Ombres d'Esteren. Et puis, en ce qui me concerne, je travaille pour la rédaction du magazine Dissident, qui est un magazine de jeux de rôle disponible en boutique spécialisée. Alors, je voudrais qu'on fasse des allers-retours entre les images, les illustrations de jeux de rôle et celles de jeux vidéo, en commençant peut-être par un sujet qui est assez classique dans le jeu de rôle et un peu beaucoup moins courant même dans le jeu vidéo, à savoir le noir et blanc. J'entre comme ça par la petite porte cette spécificité du jeu de rôle, surtout des années 70 et 80, d'avoir énormément d'illustrations en noir et blanc. Est-ce que les uns les autres vous avez pratiqué, est-ce que vous pratiquez ça et qu'est-ce que vous en pensez?
Moi j'en ai fait des centaines je pense à mes débuts. Et puis pas mal que je cacherai à l'heure actuelle. Voilà, il fallait faire ses armes, il fallait apprendre. Et c'était un super vecteur, un super moyen. Après, le fait que ce soit du noir et blanc, c'est essentiellement dû au problème de coût. On va dire jeu de rôle, c'est une niche, hormis Donjons et Dragons, voilà, qui peut se targuer de rentrer dans le top 10 ou top 50 des plus gros best-sellers US, tout bouquin confondu. Tout le reste, en fait, ça reste des micro-bouquins, des micro-projets. On n'a pas un public en fait énorme et du coup ça influe sur le coût de production qu'il faut réduire, et l'utilisation voilà du noir et blanc ou de la bichromie, à contrario voilà de la quadrichromie, enfin d'utiliser des impressions pleines couleurs, ça permet de réduire les coûts à la fois en impression et puis également au niveau de la paye pour l'artiste illustrateur.
Parce qu'on est dans un milieu, le jeu de rôle, où il y a très peu de moyens. Et donc, effectivement, c'est souvent une question de coût quoi, sur la gestion des illustrations. Je sais pas qui... Fred, je sais que tu pratiques aussi pas mal le noir et blanc.
Beaucoup de noir et blanc, oui. Bah, c'est effectivement, en général, c'est la base du travail dans le jeu de rôle. C'est le coût le plus faible. Donc, ça permet de partir sur une base de travail qui est un faible coût. Voilà. Je pense qu'on avait le tour au final. C'est... Bon, d'un autre côté, moi, le noir et blanc, je trouve que ça permet aussi de bien situer une ambiance. La plupart du temps, ça suffit au jeu de rôle. Vraiment, on n'a pas forcément besoin de pousser non plus sur de la couleur.
Ouais, je vais rebondir là-dessus. Oui, parce que, on est d'accord, c'est d'abord un problème d'économie. C'est évident que si tout était en couleur, on serait très content. Et puis, ça arrive de temps en temps, donc tant mieux. Dans un certain nombre de cas aussi, le noir et blanc permet d'avoir une approche un peu plus esquisse du travail, qui permet de garder des flous, des zones pas tout à fait définies, et que ce soit et dans ce sens-là, ça se rapproche du travail qu'on peut faire en production pour du dessin animé, du jeu vidéo, n'importe quoi, du rough. Quoi. C'est vraiment le principe du rough. Et en jeu de rôle, ça marche pas mal parce que quelquefois, il suffit d'évoquer quelque chose. Après, c'est au maître de jeu ou au joueur à rebondir. Et puis, c'est d'arriver à en faire suffisamment parce que, en fait, quelque part, l'ambiance en jeu de rôle, c'est... après, vous me coupez si vous trouvez que je dis des conneries. Mais ça peut être une image qui tabasse ou 50 images qui ont une cohérence et qui amènent vraiment un univers. Bon, le must, c'est les deux. Mais cette adéquation-là est intéressante. Et le noir et blanc, de fait, apporte ça, puisqu'on reste quasiment à l'état d'esquisse.
Voilà. Après, les esquisses, tu peux aussi les taper avec des valeurs colorées.
Ouais.
Que ce soit une bichromie ou un truc comme ça, ou justement en jeu vidéo, on n'est pas limité à ça.
Une mise en valeur.
Voilà, ouais. Et moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je parlais de la différence, enfin l'utilisation des images dans le jeu vidéo, production et le jeu de rôle. Tu as parlé d'évocation, de suggestion, justement par rapport au jeu de rôle, le fait de s'immerger, de rentrer dans une histoire, de devenir acteur, de devenir joueur, de développer mentalement un univers, de le partager avec les autres. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la suggestion, c'est beaucoup plus fort en fait le fait d'évoquer les choses. Et en jeu vidéo, en fait, je vois deux utilisations. Désolé, je suis pas très clair. J'ai pris trois cafés, mais je suis peut-être pas encore assez énervé, quoi. Voilà. Et il y a le côté en fait outil de production, outil de communication. Outil de communication, effectivement, on va parler d'un jeu, que ce soit en interne pour une équipe ou même à l'extérieur. Et là, quelque part, on peut peut-être rentrer. Enfin, c'est délicat, jeu vidéo, c'est codifié, l'image de synthèse, image digitale. On a besoin d'énormément de détails. Mais bref, malgré tout, on peut évoquer, suggérer des choses. Alors qu'en termes de production, en fait, juste pour expliquer brièvement la pipeline, le fait d'avoir un concept, une idée, de devoir créer ce monde de façon virtuelle en 3D. Avec des artistes 3D, ces artistes-là, en général, ils ont besoin d'un maximum d'informations, ils ont besoin de ce qu'on appelle des blueprints ou de plans techniques, quelque part, où là, on ne peut pas se permettre, en fait, d'être dans l'évocation, la suggestion. Il faut résoudre tous les problèmes, comment les boulons, comment les pièces, en fait, s'enchevêtrent, comment tout est structuré. Et là, du coup, en fait, j'allais dire que ça ne partonne pas, mais ce dont on a besoin, c'est des plans extrêmement techniques. Mais du coup, la finalité n'est pas la même, et de fait, en fait, l'approche peut changer, l'approche graphique.
Alors, du noir et blanc, on va passer maintenant à un support qui porte le même nom, mais qui est différent entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, à savoir l'écran. Là, on a en visuel l'écran de Terra Incognita, on a vu celui de Cops tout à l'heure. Donc, ce sont des écrans de jeu qui ont comme fonction de cacher le matériel du meneur de jeu, et puis aussi de proposer une évocation de l'univers. Ce sont des écrans papier. Et puis pour les jeux vidéo, il y a les écrans numériques. On vit dans une société qui est de plus en plus... on est entouré d'écrans. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut faire un rapport, quel qu'il soit, entre l'écran de jeux vidéo et l'écran de jeux de rôle?
Moi, je me rappelle, quand je faisais des parties de jeux de rôle, c'est vrai que c'est la chose qu'on voit tout le temps. C'est la seule chose qu'on a devant les yeux, finalement, ouais. L'écran. Et je sais que je me suis raconté énormément de choses. Je me rappellerai toujours de l'écran de Rêve de Dragon, en l'occurrence. C'était tout bête, avec un dragon, un monde, et puis un bonhomme et une nana qui étaient en tailleur. Et je sais pas pourquoi, mais... De temps en temps, quand il y avait ça durait dans les parties, je regardais ces deux personnages-là, cette illustration, et ça me faisait penser à des trucs. Enfin, il y a ce côté objet, en fait, qui fait voyager. Je saurais même pas expliquer pourquoi, finalement, mais c'est vrai que l'écran dans le jeu de rôle a son importance, finalement, et on s'en rend même pas compte, mais...
On rappelle juste, pour ceux qui ont commencé le jeu de rôle plus récemment, que Rêve de Dragon, c'est un jeu de rôle français de la fin des années 80, du début des années 90.
Tu peux m'expliquer ce que c'est la fonctionnalité de l'écran?
Alors, c'est vrai. Voilà. À la base, l'écran, en fait, ça sert juste à masquer. C'est-à-dire qu'il y a un maître de jeu, un conteur, qui va raconter l'histoire. Il y a les joueurs qui, eux, vont la vivre. Et le maître de jeu, étant omnipotent, a la possibilité de jeter ses dés derrière cet écran. Donc, de masquer et donc de tricher. Éventuellement. Ça permet soit de corser les difficultés ou soit de sauver un joueur qui a bien joué mais qui n'a pas eu de chance au dé.
Oui, c'est amusant parce que dans la description que tu fais de l'écran de jeu pour le jeu de rôle, au-delà du support visuel que tu évoquais qui rappelle les illustrations puisqu'il y a une illustration dessus qui permet des évocations, finalement son rôle c'est de masquer de l'information. Il ne transmet pas d'informations sur le jeu en tant que tel. Il cache les informations du maître de jeu, tandis que dans le jeu vidéo, on a toute une problématique au niveau du visuel pour transmettre un maximum d'informations sur les interfaces, sur tout ce qu'on peut. Et
il y a tellement de choses en jeu vidéo que j'ai du mal moi à faire une analogie, quelle qu'elle soit, entre écran de jeu.
C'est plus opposé en fait, le rôle de l'écran, le terme simplement.
Il y a un truc aussi que je trouve plaisant, enfin, par rapport à l'écran, j'y vois une dimension un petit peu théâtrale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être un des seuls éléments physiques. Il y a tous les joueurs autour de la table, on se projette dans cet univers, et là finalement on a juste un truc justement physique qui nous propose une petite image, et il y a ce petit côté, un espèce de mélange de rideaux et puis d'accessoires posés là, qui aide peut-être, en partie vraiment minime, mais à faciliter la projection dans cet univers. Oui, c'est peut-être le seul référent que tu as pendant la partie en fait sous les yeux, le seul visuel auquel se rattacher.
En tout cas, c'est un visuel statique, c'est celui qui est là toujours, c'est toujours présent au cours de la partie.
Mais oui, c'est ça, c'est qu'on finit toujours par le revoir. Parce que c'est vrai qu'en général, les joueurs s'intéressent de toute façon aux visuels ou aux illustrations qu'il peut y avoir à l'intérieur des livres. Ils ne restent pas basés sur l'écran uniquement.
Le seul parallèle que je pourrais faire, c'est sur un élément statique, c'est les éléments d'interface dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un élément toujours présent qui vous donne le cadre de votre jeu, en fait, si vous avez des vies.
Peut-être le fond du menu, alors.
Ouais, le fond du menu.
Quand tu te mets en pause et tout, tu reviens toujours à une image.
Voilà, quelque chose qui est toujours présent finalement, et qui... mais c'est le seul parallèle qu'on pourrait faire.
Alors, autre élément toujours ou quasiment toujours présent, il y a la fiche de personnage aussi. Donc là, qui donne les caractéristiques du personnage que l'on incarne, et puis qui donne aussi des éléments de règles, c'est-à-dire de gestion, de gameplay, etc. Je vais, comme le ton nous est compté, je vais passer au sujet suivant, sans transition ou presque. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'arrivée des images numériques générées par ordinateur dans les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on commence depuis 2-3 ans à voir arriver des jeux de rôle illustrés pratiquement uniquement par des images générées par ordinateur. Est-ce que ça ne va pas vous mettre, pour certains d'entre vous, au chômage technique ? Ou est-ce qu'il y a encore le temps ?
Bah derrière ces images, il y a forcément une personne, de toute façon. C'est pas, enfin, il y a toujours quelqu'un qui les a travaillées, ces images, à moins qu'elles soient libres de droit. Mais en général, il y a de toute façon un travail qui a été fait à un moment donné.
Alors, les images que tu veux dire par... Alors,
ce que là, c'est un débat super complexe, c'est l'opposition entre, comment dire, peinture traditionnelle et la peinture digitale. Quoi.
Oui, alors
là,
je parlais pas forcément de peinture digitale, mais plutôt d'images 3D. D'images 3D.
C'est pareil, il y a un modélisateur 3D derrière aussi, un modeleur 3D qui est là aussi. Si c'est de la 3D, en tout cas. Moi, je vois de plus en plus d'illustrateurs qui partent sur une base de 3D pour ensuite revenir à la 2D. Quand il y a du décor, en tout cas, ça leur permet de visualiser beaucoup mieux l'espace. Enfin, je sais pas si...
c'est un outil comme un autre que tu peux intégrer en plus dans ta boîte à outils en tant qu'illustrateur et gagner énormément de temps, d'efficacité. Mais après, encore une fois, c'est la façon dont tu utilises ces outils-là et qu'est-ce que tu en fais. Parce que voilà, si tu utilises de la 3D, après, c'est une histoire de choix. Moi, je préfère largement aussi des images qui soient évocatrices, plus impressionnistes, où on peut se projeter plus loin que des images froides, en fait, avec un rendu 3D... Mais ça peut avoir aussi une autre utilité. Je pense qu'en jeu de rôle, il y a aussi une dimension technique. Quand on joue, c'est, je sais pas, admettons qu'on soit dans un vaisseau spatial, dans un bateau, dans un... où que ce soit, le fait d'avoir un plan, des référents en fait, techniques qui permettent de situer un petit peu, d'appréhender un petit peu les distances, les volumes, s'il y a des coursives dans un donjon, je ne sais pas quoi. Et le fait d'avoir un plan technique, un plan 3D, ça peut être, à mon sens, extrêmement utile pour les joueurs.
De toute façon, le joueur de jeu de rôle, en général, est extrêmement demandeur de plans, hein, quoi qu'il arrive. Ça reste assez terre-à-terre de ce côté-là. Il faut absolument qu'on lui explique comment c'est fait. Enfin, c'est surtout le MJ, enfin, le maître de jeu, donc, qui aime bien ça, parce qu'en général, quand les joueurs commencent à poser des questions, ça lui permet d'être crédible quand il y répond. Enfin, regarde, ça fait comme ça.
Alors, toujours sur ce passage de la 2D à la 3D et réciproquement, avec l'univers des ombres d'Esteren, on avait... beaucoup d'illustrations créées pour le jeu de rôle, parce que c'est l'un des jeux de rôle qui a peut-être poussé le plus loin la volonté esthétique, enfin je dirais la qualité du livre comme bel objet, presque œuvre d'art quoi. Et comment est-ce que dans le cadre du développement du jeu vidéo sur l'univers des ombres d'Esteren, comment est-ce que vous avez appréhender ces illustrations préexistantes.
Moi, quand j'ai découvert l'univers graphique des ombres d'Esteren, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un énorme travail qui avait été fait, parce que le livre allait être en couleur et que les artistes pouvaient aller très très loin dans leur travail. Ils pouvaient vraiment produire des aquarelles, des peintures, des tableaux, vraiment tout ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas trop limités, ils s'étaient vraiment donné... de la place pour faire ce qu'il voulait. Et dans le jeu vidéo, c'était comme Alexis l'évoquait tout à l'heure, en fait, le processus de fabrication est un peu codifié. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'artiste « tu fais comme tu veux, puis on se démerdera après, on verra pour l'intégrer ». Et du coup, ça nous a posé la question sur les environnements qu'on voulait présenter. Est-ce qu'on voulait quand même garder l'aspect visuel ? On voulait ricocher sur cet aspect visuel qui était tout à fait plaisant. Et donc on s'est dit que finalement on ferait un jeu en 2D qui correspondrait au meilleur moyen pour nous de reproduire et d'afficher ces images-là, tout simplement en les intégrant le mieux qu'on pouvait dans l'environnement interactif. Donc ça n'a pas été forcément très simple au début, on s'est un peu pris les pieds dans 2-3 contraintes au niveau de la représentation des perspectives, du déplacement du personnage, parce que quand l'artiste dessine librement sur un décor comme celui-là, après, pour faire coller le personnage dans le décor, on triche un peu en fait, c'est pas vraiment régulier. Et donc on est parti après sur des... On a fait des sketchs, comme Alexis l'évoquait, on a fait des sketchs en 3D, des plans en 3D pour qu'ils puissent avoir des perspectives sur lesquelles on pouvait faire correspondre le personnage. Et on a travaillé sur des aquarelles qu'on a numérisées, puis retraitées ensuite, pour qu'elles puissent être découpées, pour créer des plans de profondeur, pour que le personnage puisse passer derrière certains éléments, parce que sur un tableau, sinon, vous pouvez rester toujours au premier plan. Et voilà, donc on est parti sur un jeu, un style de jeu qui existe sur PC depuis longtemps maintenant, qui est le point and click, qui nous permettait de faire de la narration et de nous rapprocher du jeu de rôle, de l'univers en tout cas du jeu de rôle, tout en gardant ses illustrations, quoi.
Alors il y a une autre forme de décor dont on a un tout petit peu parlé, enfin, Fred, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le plan ou la carte. Je me tourne vers Nicolas. Voilà un exemple de carte de jeu de rôle pour Kadat.
C'est pas du jeu de rôle.
Alors c'est, voilà, il y a des règles qui sont proposées avec, mais à la base, ce n'est pas un jeu de rôle. C'est pas un univers de jeu de rôle à la base. Comment est-ce que on conçoit ce type d'image?
C'est pas tellement comment on conçoit ce type d'image, c'est que ce type d'image est le présupposé pour pouvoir continuer le travail. C'est assez vrai en jeu de rôle, ça l'est tout autant sous certaines formes de production. Je vois que ce soit pour le dessin animé, le cinéma, enfin il y a des besoins de poser les choses. On parlait de l'utilité de mettre en 3D ou de faire des plans ou de faire des choses comme ça, c'est pas juste pour essayer d'en mettre plein la tête avec un plan. Bon, l'un des plans qui nous a fait le plus rêver, c'est le plan de la élite en 82 à peu près, si mes souvenirs sont 84, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça c'est des plans marquants, il y a quelques plans, mais au-delà du plan, l'intégralité de la cité était développée.
Donc la Kadat, juste
ça recouvre un peu le même principe.
Excuse-moi de te couper. Ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas la élite, pour les plus jeunes d'entre nous, donc c'est une cité imaginaire créée par
Heroic Fantasy,
créée par les membres de la rédaction de Cassius Belli dans les années 80. Et pour laquelle tu avais créé pas mal de...
Non,
d'illustrations,
je suis pas si vieux que ça.
Ouais, pas si vieux que ça.
Il y avait une refonte beaucoup moins réussie malheureusement dans les années 90, fin des
voilà.
années 90-2000.
C'est à cette version-là que tu as participé.
Où il y avait un post-La Élite qui avait été fait dans une nouvelle refonte de Cassius Belli. Voilà.
D'accord.
Mais qui était beaucoup plus hasardeuse, justement parce que, alors notamment, ben c'est finalement un pas si mauvais exemple que ça, ils sont entièrement, à l'époque, ils étaient entièrement gaufrés dans les plans même de la élite. C'est-à-dire que moi j'avais des souvenirs qui n'étaient pas ceux-là, sur les placements de quartier, les mécaniques à l'intérieur de la ville, et ces plans-là, en dehors d'être un amusement graphique, parce qu'on est là à s'amuser à dessiner bâtiment par bâtiment, il y a aussi des logiques de circulation, d'ambiance, de choses comme ça. C'est-à-dire que ça est le présupposé de certaines mises en perspective. Enfin, du moins, c'est la façon dont j'aime fonctionner. Et notamment pour le jeu de rôle, parce qu'on va 10 fois plus vite avec un plan, quoi. Enfin, là, je suis sur un nouveau projet. Pareil, l'une des premières choses que je fais, c'est le plan. C'est bête, hein, mais c'est tellement pratique.
OK. Toujours dans cette idée de la différence entre jeu de rôle et jeu vidéo... est-ce que vous retrouvez dans l'idée que finalement la différence c'est un peu celle d'un décor et d'un côté et d'un paysage de l'autre, c'est-à-dire plus décor pour le jeu vidéo, plus paysage pour le jeu de rôle, dans ce sens que il va y avoir des nécessités d'interactivité, d'utilisation des impératifs d'utilisation du décor dans les jeux vidéo. Et alors que dans le jeu de rôle, c'est plus le reflet d'une sorte d'univers mental la plupart du temps. Chacun imagine le paysage comme il veut, alors que le décor du jeu vidéo, il va être beaucoup plus prescriptif. Et tout le monde va voir le même. Donc est-ce que cette frontière décor-paysage, ça vous parle, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Dites-moi.
Ben. Moi je peux avoir l'année dernière il y avait Michael Moorcock qui était là pour la sortie de Mornblade justement
et, qui était à ta place exactement là
voilà. Et quand j'ai discuté avec lui on était justement en train d'évoquer parce que j'avais travaillé sur les décors de l'univers et donc je lui demandais si ça correspondait à sa vision des choses et il m'avait répondu mais enfin, de toute façon les gens le voient comme ils ont envie de le voir, moi j'impose pas non plus de façon... Voilà, je l'ai écrit. Maintenant, s'il leur manque des éléments, ou s'ils ont envie d'en rajouter, ils en rajoutent. Effectivement, je pense que dans le jeu vidéo, on a un décor qui est déjà qui est posé. On ne peut pas décider, enfin pas encore en tout cas, ça peut se faire, c'est un concept d'ailleurs, on pourrait rajouter des éléments petit à petit. Mais dans l'idée, en tout cas, enfin, je suppose en tout cas, c'est une partie de la réponse.
Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, sur l'évolution dans les décors et dans les environnements, enfin, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui où l'environnement du jeu est lui-même le principe de l'interactivité du jeu, je pense. Minecraft,
tu penses à quoi, des décors,
Minecraft est un décor évolutif où les joueurs vont pouvoir choisir un petit peu ce qu'ils veulent voir au fur et à mesure dans leurs actions. Des jeux comme GTA qui n'ont pas le même propos mais qui ont un décor extrêmement interactif aussi dans la limite de ce qu'ils proposent. Donc il est
interactif mais il est figé et il est extrêmement impressionnant.
Ouais, il laisse pas beaucoup de place à l'imaginaire sur ce qu'il représente, mais il y a de la place pour l'expérimentation. Et donc il est amené à changer au cours des actions du joueur, alors après dans différentes dimensions. Je pense que Minecraft le représente un peu mieux. Après, sinon, c'est des évolutions qui sont évidemment un peu scriptées, mais qui sont prévues par le scénario du jeu pour faire évoluer l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez des conséquences de vos actes, on peut se retrouver avec un environnement de jeu qui change et qui va être proposé. Par contre, il est déjà prévu, enfin, il est déjà créé à l'avance. Ça, c'est sûr.
Mais là, je me dis aussi que la plupart des gros jeux en fait console, on est plutôt dans un cadre où le décor est figé. Donc il doit être créé, conçu d'une façon où il ne va pas être altéré, il ne va pas évoluer quelque part. Donc il y a une grosse réflexion là-dessus. Je me dis aussi que par rapport à cette question, l'idéal, ce serait de revenir aux bases, en fait, expliquer un petit peu tout le processus de création d'un jeu vidéo. Après, on pourrait rajouter aussi l'histoire que tous les jeux vidéo ne se ressemblent pas et qu'il y a plein de types de façons de produire des jeux vidéo, que ce soit entre Minecraft et puis Uncharted d'un côté, ce n'est pas du tout la même façon de composer. Il y a un fond d'écran Remember Me, j'en profite pour faire une petite pub par rapport à ce soir. On va faire justement une présentation du jeu où on pourra parler de tout ça, mais je pense qu'en même en une heure et demie, on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder par rapport à nous, comment on a fonctionné là pour développer et créer Remember Me. Et je dirais encore une fois par rapport à ta question originale, la grosse différence entre jeu de rôle papier et jeu vidéo, c'est les contraintes et la finalité. En jeu de rôle, en fait, sur support papier, la finalité, c'est l'illustration en elle-même. Et OK, on a besoin d'être raccord si on doit intégrer les personnages au niveau de l'échelle, différentes choses comme ça et tout. Mais on n'a pas à se soucier du gameplay, des mécaniques de jeu. On n'a pas à se soucier... Enfin, on est plutôt dans l'esthétique, la plastique. Si on reste diffus ou juste évocateur, là, impressionniste, il n'y a pas tous les éléments qui sont extrêmement précis, c'est pas forcément gênant. Et alors que si on revient justement aux jeux vidéo et si on parle de conception en fait 2D, de concept art, le concept art, c'est pas la finalité. On peut le mettre dans un bouquin, voilà, un artbook par rapport au jeu, quand on est content du résultat, tout ça. Mais le truc au final, c'est l'expérience de jeu en elle-même, c'est le jeu en tant que, enfin, comme un tout. Et du coup, les décors, enfin voilà, quand on les conçoit, il y a en termes de conception, il y a un échange énorme entre les autres corps de métier, les game designers, les level designers, les animateurs, les programmeurs. Enfin, il y a un petit peu tout qui est mis en branle. Et du coup, on peut pas seulement résumer au fait de juste balancer une image. Et c'est peut-être pour ça justement que, enfin, si vous avez déjà vu sur des grosses prods de jeux vidéo, le nombre de concepts en fait qui est balancé, c'est voilà, c'est pas seulement un premier jet, c'est qu'il y a, en gros, c'est un outil pour résoudre un maximum de problématiques. Et voilà.
Alors, du décor, on va glisser tranquillement vers les personnages, parce que dans les jeux vidéo, les jeux de rôle, il y a des protagonistes qui sont donc des personnages de jeux de rôle, des personnages de jeux vidéo, de plus en plus des personnages féminins d'ailleurs, plus dans les jeux vidéo que dans les jeux de rôle, je dois dire. Le jeu de rôle a encore un peu de mal à proposer des archétypes, des personnages jouables, des personnages féminins. Comment est-ce qu'on conçoit un archétype ou un personnage pré-tiré dans les jeux de rôle? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a un cahier des charges précis et il faut le suivre et donc on doit illustrer ce qui est prévu par les règles? C'est comme on dit dans le milieu de la figurine, ce que vous voyez c'est ce que vous avez, ou bien est-ce qu'on part d'une non, idée
c'est et un ensuite, peu les deux mon capitaine
c'est les deux bien, je ouais, m'en doutais ouais. un peu.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un premier descriptif qui est ce dans quoi doit s'insérer le personnage. Au-delà de ça, il y a quand même une bonne zone de liberté pour le dessinateur. Enfin, généralement, j'ai pas fait 500 jeux non plus, donc je sais pas, mais on a quand même une certaine liberté. Et cette liberté, elle amène des éléments qui sont eux-mêmes susceptibles de faire rebondir les scénaristes d'un jeu. Après, le dessinateur, il arrive quand même après la première vague d'écriture. Donc, on ne peut pas non plus remettre en cause. On ne va pas faire des créatures ailées sous prétexte que ça me plaisait. Que, voilà, alors qu'ils sont censés travailler dans des mines. Bon. Mais en dehors de ces, voilà, de ces extrêmes-là, la liberté, elle est quand même quasiment totale. Et puis, il y a rebond. Enfin, quand ça se passe bien, encore une fois, après, c'est plus un rapport humain. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'écriture, s'ils voient que ça rebondit bien, ils vont fatalement commencer des nouvelles phases d'écriture. Au lieu de les commencer dans leur coin, ils vont commencer à les faire avec le dessinateur.
Voilà, ça touche complètement à la relation que tu as, la relation professionnelle avec ton client. D'un côté, tu pourras avoir juste un brief et t'illustres ce qu'on te donne, tu as quelques références, et puis après, tu vas avoir quelques retours. Et là, tu es aussi en train de parler d'un truc où ça se passe vraiment super bien, où là, tu es vraiment un échange créatif et tu es vraiment intégré au sein de l'équipe
et du développement
de l'univers. Et là, c'est tout un travail de rebond, d'influence commune, de partage.
Après, de toute façon, on le disait tout à l'heure, le jeu de rôle, ça reste une niche. Donc, il y a forcément un échange privilégié entre les deux personnes, puisqu'il n'y a pas non plus, contrairement au jeu vidéo, il va y avoir toute une équipe. C'est vrai que dans le jeu de rôle, il y a 1, 2, 3, 4 illustrateurs, rarement plus quand même. Et donc, effectivement,
ouais, mais bizarrement, très vite échangé. Moi, mon expérience en fait en jeu de rôle, comment dire, à contrario d'une production de jeux vidéo sur lequel tu vas passer parfois plusieurs années, où là vraiment il y a un travail d'échange énorme au jour le jour, tous les corps de métier, comme je disais juste avant, en fait, qui rebondissent les uns les autres. En jeu de rôle, pour moi, ça a toujours été des participations plus brèves, c'est-à-dire un bouquin, je reçois un brief et je peux pas m'intégrer dans la production de la même façon. C'est pas la même implication quelque part.
Je pense aussi. Peut-être on en revient au coup finalement. C'est vrai que dans le jeu de rôle, on n'a pas forcément le temps non plus de passer 150 ans sur un concept de personnage.
Effectivement, des fois peut-être un petit peu plus efficace, quoi. Après, pour moi, ça coïncide peut-être avec un petit peu plus de liberté.
De quoi, le jeu de rôle ?
Ouais, jeu de rôle.
Petite
niche, plus petit budget.
Je vais revenir. Excuse-moi.
Je pense qu'effectivement, oui, dans le jeu de rôle, on est beaucoup plus libre. Moi, j'avoue que sur les archétypes de Mandblade, j'étais particulièrement bien encadré. Le personnage était comme ça et pas autrement. Mais derrière, finalement, quand je me permettais deux ou trois choses qui n'étaient pas forcément marquées dans le script, on ne me l'a pas reproché non plus. Et puis, la plupart du temps, c'est très bien passé même.
Je voulais savoir si vous avez pensé à créer un ou plusieurs personnages spécifiquement pour le jeu vidéo tiré de l'univers des Ombres d'Esteren.
Oui, en fait, le processus de création de personnage a été pensé pour le jeu au départ. C'est-à-dire qu'on a écrit une histoire pour le jeu à partir du jeu de rôle, enfin avec un des scénaristes du jeu de rôle, et on a créé un personnage pour le jeu vidéo parce qu'on avait écrit une histoire pour lui. Et le personnage, finalement, a intégré le jeu de rôle. En fait, rétroactivement, comme c'était les mêmes créateurs, il a trouvé le personnage intéressant, il a développé le personnage.
Un personnage féminin, d'ailleurs.
C'est un personnage féminin, d'ailleurs, oui. Donc, c'est devenu après tiré du jeu de rôle. Il a un rôle dans l'univers. Enfin, il a intégré l'univers. Comme il y a un lien, on était vraiment dans l'idée de garder le lien. On est entre les deux produits, même si les deux jeux sont tout à fait différents. La création s'est faite dans ce sens-là pour le jeu vidéo.
Toujours à propos des personnages féminins et masculins, est-ce que lorsque vous concevez une illustration pour un personnage comme ceux de Mandblade par exemple ou d'autres, est-ce que vous avez derrière la tête ce personnage va plutôt être joué par un homme, par un garçon, plutôt être joué par une femme?
De mon expérience, moi dans Mandblade comme dans les Ombres d'Esteren, les archétypes sont déjà déterminés à l'avance, hein. C'est homme-femme, c'est pas le magicien, c'est une femme ou un homme, mais c'est pas tu choisis. Enfin, en tout cas, ça a été le cas. Je pense que ça simplifie les choses tout simplement. Pour Mandblade, sur les 17 archétypes, on était à la parité. Enfin, il y avait un homme de plus, puisqu'on était sur un nombre impair, mais voilà quoi.
C'est donc. Et pourtant, les statistiques joueurs, ça donne quoi?
Je pense qu'on doit être un bon 80% de joueurs masculins. Et encore, hein, c'est pas mal. Hein. Il y a une dizaine d'années, je pense qu'on était à 90% peut-être. Donc, bon.
Alors,
je dis ça, ça évolue.
Oui, ça évolue lentement, mais je pense qu'on est toujours aux alentours de 85-90% de garçons qui pratiquent le jeu de rôle.
J'étais optimiste.
Oui, il faut. Il leur faut des adversaires à ces personnages. Donc, une autre question un peu iconoclaste, mais bon, avec les images, c'est normal de poser des questions iconoclastes. Est-ce que vous aimez les monstres? Est-ce que vous aimez dessiner les monstres ?
Je crois que le gros avantage du monstre, c'est que ça fait partie... Ah bah, pour le coup, Fear, ça va être un peu différent, parce que le zombie, c'est très codifié, du coup, maintenant.
Ouais, et puis on n'est pas dans un registre... comment dire, c'est une créature anthropomorphe, c'est une base humaine. Donc effectivement, c'est pas la même chose que de dessiner un gros démon cornu. Moi, c'est par rapport... Ta question, elle me fait penser justement à beaucoup d'aspirants illustrateurs qui ont envie de faire ce métier-là et tout, et qui apprécient, qui ont un book rempli de grosses créatures avec des cornes, des sabots, des gros démons, ce genre de choses. Et moi, je trouve qu'il y a une sorte de... C'est plaisant à faire. Je suis un des premiers aussi à apprécier, à me confronter à ce genre d'exercice, mais il y a un petit côté facile, quelque part. Quand on s'émancipe complètement des référents en fait réels, le fait de faire une pseudo-créature de 120 mètres de haut avec, voilà, comme je l'ai dit, des ailes, différentes choses et tout, où on n'a pas à se référer à, comment dire, à la comparaison avec le réel. C'est-à-dire, si on dessine un être humain, on en a tous vu un, on sait à quoi ça ressemble, et c'est beaucoup plus difficile, en fait, de... comment dire, de... Je vais essayer de me reprendre. Bref, on a cet exemple-là en tête, on sait à quoi ça ressemble, et on ne peut pas... Avec un gros démon, c'est plus facile, en fait, de feinter et de faire un pseudo-truc qui rend bien de loin et... Moi, je suis moyen fan. Enfin, c'est... bref, là, j'ouvre peut-être un débat qui est...
Non, mais c'est qu'on on évoque la question de la référence, en fait. C'est effectivement, un être humain, il n'y a pas plus humain qu'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est fait comme ça. Et puis, alors, si on lui rajoute un sixième doigt, le public le verra. Aussi néophyte qu'il soit, le public voit toujours les erreurs dans une image, ou très souvent, en tout cas. Et on peut tricher, on fait disparaître des choses. Quand on n'est pas trop bon, par exemple, pour dessiner des jambes, bah, on met un petit peu la jambe dans la brume et puis ça passera. En revanche, justement, donc pour les monstres, c'est extrêmement simple parce que voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. En même temps, personnellement, à cet exercice, j'ai eu quelques difficultés quand même parce que dans les ombres d'Estérène,
ce dont on a l'impression, en fait, justement, c'est on fait ce qu'on veut, puis voilà, on va dessiner un mélange de crâne, d'ossements, on fait un monstre qui vomit.
Oui, et puis au final, très
ça
vite,
ça paraît un petit peu horrifique. Au final, je trouve qu'on arrive très vite à un espèce de non-design ou un design qui est absolument pas beau.
D'accord.
Et après, c'est délicat de trouver le côté esthétique. Là, la première figure en fait qui me vient en tête, c'est l'alien de Giger, de Ridley Scott, voilà, qui est tellement, enfin, qui évoque beaucoup de choses. Il y a le sous-texte, on va dire, sexuel. Il y a même le sens du design, la créature profilée, qui en fait vraiment quelque chose d'extrêmement plastique et de superbe. Et là, je reviens encore une fois au jeu vidéo, la notion de contrainte et le fait d'allier la forme à la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, si on pond un concept 2D, même si la créature a six jambes, une queue de scorpion, je ne sais pas quoi et tout, il y a plein de paramètres qu'on doit résoudre. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là, c'est le fait de devoir la rendre crédible. Et donc, il va falloir penser au sens de l'animation, à comment elle bouge, aux matériaux, et vraiment la rendre crédible quelque part. Où là, ce n'est pas seulement le fait de procéder comme... avec un collage, comme je disais tout à l'heure, le fait de coller, voilà, je sais pas, des pattes dégueulasses, une texture de peau de caméléon, une langue chelou ici, on fout des bubons ici et là, et puis bim, on a une espèce de dessin un petit peu horrifique. Et du coup, en jeu vidéo, on se doit, ouais, entre guillemets, d'aller plus loin et de devoir résoudre, ouais, toute cette problématique-là, comment la créature va bouger. Il faut penser au squelette, à quelque part même la musculature.
C'est vrai qu'effectivement, le gros problème du monstre avec les six pieds et les trois mains, c'est que quand on commence à se l'imaginer en train de se mouvoir, on est en train de se dire que finalement, elle n'est pas si monstrueuse que ça. Elle serait plutôt ridicule dans la réalité. Enfin, en tout cas, un monstre qui est raté sera un monstre qui se traîne. Et finalement, on se l'imaginait extrêmement puissant. Et puis, bah, en fait, non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est dommage. C'est vrai que c'est intéressant comme... Mais par rapport à ça, moi je sais que les ombres d'Estérène, par exemple, c'était l'exemple type où on m'a dit, alors c'est simple, l'effet Ondas, c'est le gaélique pour l'ennemi, et voilà les monstres.
Oui.
Et donc je me base sur quoi ? Ah, tu te bases sur ce que tu veux, c'est un ennemi, si on ne sait pas ce que c'est. On est, voilà, donc à partir de ce moment-là, et étrangement, moi, c'est vraiment l'exercice, en tant qu'illustrateur, ça fait partie des exercices les plus difficiles que j'ai pu avoir. Parce qu'au final,
on n'avait pas assez de contraintes ? Pas assez de données.
C'est ça, tout simplement, je pense. Hein. J'ai besoin quand même d'avoir une base de travail, finalement, de me dire je peux faire ce que je veux, certes, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a tout un. Ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut travailler le design, il faut travailler la crédibilité. Là, pour le coup, on est dans de la créa pure et dure. Quoi. Donc, c'est le fait de se retrouver tout seul, peut-être face à ça aussi. Après, il faut commencer à créer un échange avec le reste de l'équipe pour vraiment avancer sur quelque chose.
Oui, sur la notion de monstre. en fait, le monstre, il est quand même censé faire corps avec l'univers. Ça me dérange toujours de séparer même les archétypes, enfin les personnes qui sont susceptibles de vivre sur une planète, des créatures qui peuvent y vivre aussi, et de la planète elle-même. Ça reste un tout. Et quel que soit le support, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de rôle, du cinéma, cette unité a besoin de champs de travail qui sont... qui vont avoir une représentation graphique, mais qui, pour pouvoir être traités, ne proviennent pas forcément seulement d'une identité graphique. Je m'explique. On peut être amené à faire ou à produire du malsain. Pour faire du malsain, justement, pour revenir au côté 6 bras, 30 griffes, 3 têtes, il y a un moment où, oui, effectivement, ça ne sert plus à rien. Lovecraft a beaucoup pâti, par exemple, de moult représentations absolument abominables, mais là au sens pitoyable du terme, de créatures qui ressemblent en rien finalement à ce qui est décrit. Déjà, ce qui est décrit n'est pas tellement décrit et assez abstrait, mais en plus...
C'est surtout innommable.
Indicible. Alors là,
c'est plus qu'indicible et innommable. Enfin, ça ne devrait même pas être représenté, c'est tout. Et là-dessus, il y a un vrai travail, parce que le travail à l'origine d'un Lovecraft, il va être finalement pas tellement dans le résultat de la description de son monstre, il va être dans ce qu'a véhiculé le monstre. Et qu'on soit en jeu vidéo ou sur n'importe quel support, la finalité, elle est là. Si vous flippez devant votre écran, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu pas forcément une image qui vous a marqué, mais un enchaînement d'images qui fait que la mise en situation vous fait flipper. Ou parce qu'une nappe sonore à tel moment produit ça. Bon, un film, pareil. C'est pour ça qu'on fait des storyboards. Et en jeu de rôle, j'ai envie de dire, c'est pareil. En fait, je veux dire, le monstre, il va faire corps avec l'univers dans lequel il est dessiné. Donc, il va pouvoir être poétique à certains moments, parce que le monstre, après tout, c'est tout décalage à partir de l'humanoïde. Donc, de l'humain. Pas de l'humanoïde, mais de l'humain. Donc, c'est ça qui est intéressant de travailler. Voilà.
Alors, un dernier point, peut-être. Les Ombres d'Esteren... C'est censé être un jeu d'horreur médiévale. Comment est-ce que cet aspect horrifique est retranscrit dans ce futur jeu vidéo?
L'aspect horrifique...
Est-ce qu'il y aura des monstres?
Oui, oui.
À la télé?
Non, et en fait, sur le jeu qu'on propose, l'aspect horrifique, il passera pas tellement par les combats de monstres dans l'absolu. Comme l'évoquait Frédéric, les monstres... ont une représentation qui est assez fantasmagorique, en fait. On n'est pas tellement, il y a pas tellement de représentation, c'est un peu psychotique. Ça vient vraiment des personnages. Donc on n'est pas rentré dans le fait de collectionner les combats et d'abattre des monstres dans le jeu. Je pense que l'horrifique, on va le représenter plus par l'ambiance des environnements, des décors, de toute façon qui font corps avec la musique qui a été faite pour le jeu. Je pense que c'est vraiment plus une question de créer une ambiance et de mettre le joueur peut-être dans des situations. C'est vraiment l'idée de laisser le joueur interagir avec des choses qui peuvent le surprendre et donc lui faire peur et donc lui créer une tension pour le joueur, de se dire je veux jouer donc il faut que j'interagisse, et en même temps interagir peut causer ma perte dans le jeu, et d'essayer de jouer sur cet aspect-là pour créer cette ambiance d'horreur ou pas dans les moments du jeu. C'est-à-dire qu'on aura des zones, on a une zone de jeu qui est clairement apaisante, avec une musique qui est faite pour ça, avec une ambiance chaleureuse, qui elle va venir casser ce contexte-là, et tous les autres environnements du jeu sont un peu mystérieux, et on va créer entre guillemets de la tension, que si on arrive à provoquer un peu d'appréhension pour le joueur quand il interagit. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression qu'à chaque fois qu'il interagit, il gagne tout le temps, il peut remporter la partie tout le temps, il doit faire attention, il doit un peu regarder ce qui se passe, et on le met un peu en danger. Mais c'est vraiment que des mécaniques d'interaction. Le visuellement, après, ça se traduit plus par l'ambiance de l'environnement et ce qu'il peut observer. Mais après, c'est sur la problématique qu'il y avait sur le monstre tout à l'heure, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, dans le jeu vidéo, il y a un côté vivant, de toute façon, animé, du monstre, et que sa crédibilité est parfois détruite par le fait qu'il soit montré, tout simplement, parce que c'est pas évident de terrifier quelqu'un par quelque chose de vivant devant soi, et qu'on est plus souvent on arrive à plus souvent, je pense, à générer l'horreur ou ce genre de choses en laissant le joueur ou le, comment dire, divaguer lui-même ou partir dans son imaginaire en simplement en suggérant la présence de quelque chose. C'est-à-dire que dans le jeu, il a un adversaire suivant le scénario du jeu, et en suggérer la présence de son adversaire ou de sa mort prochaine, mettre un terme à sa partie, c'est peut-être déjà créer quelque chose dans le jeu qu'on n'a pas besoin de représenter.
Dès que le monstre sort du placard, il n'est plus si terrifiant finalement, quoi.
Non, surtout que de la plupart du temps dans les jeux, les monstres, on est là pour les oxyres et que c'est plus de la chair à canon qu'autre chose, quoi.
Si la mécanique de gameplay, en fait, le cœur du jeu justement, c'est l'affrontement physique, bah, c'est paradoxal parce que là, tu auras besoin en fait de clarifier la silhouette et la forme de ton adversaire, donc de la créature, et quelque part en fait aussi entre cette nécessité de suggérer, de garder la créature dans l'ombre, juste qu'elle soit évoquée, qu'on la voit de loin. Sortir d'un couloir, sortir d'un sas, et puis on n'a pas bien vu, on a juste entendu un son. Et effectivement, si tu te retrouves manette en main à devoir affronter cette créature-là, on a besoin de lire en fait les membres, où frapper, comment elle est structurée. Oui, et du coup, c'est un petit peu antinomique.
Surtout que
des fois, ça peut bien fonctionner aussi.
Ça peut fonctionner, mais c'est vrai qu'on peut avoir des monstres, des personnages extrêmement impressionnants visuellement dans le jeu vidéo, mais on a toujours cette tendance. Parce qu'il faut les affronter et finalement les vaincre, à les représenter avec des points faibles. On est toujours dans la représentation qu'il est terrifiant, mais il y a un point faible dans la cuirasse, on pourra toujours trouver le moyen de la battre. Et c'est...
En général, le point est orange ou luminescent, mais ça fait partie des codes jeux vidéo dont on a besoin.
Dans les jeux vidéo aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu trop évident, des fois, la façon dont c'est mis en scène. Donc ça tue un petit peu cet aspect terrifiant du monstre.
Mais dans le jeu de rôle, il y a moyen de moyenner aussi. Hein. Il suffit de connaître par cœur le bestiaire... d'avoir appris toutes les caractéristiques à l'avance.
C'est justement ça, en fait. C'est vrai que c'est la frontière, au final, entre le bon monstre et le mauvais monstre, finalement, quelque part.
Ce sera le mot de la fin, le bon monstre et le mauvais monstre.
Il y a le monstre, soit il est là pour tuer, auquel cas, il n'y a pas forcément besoin de le représenter. C'est juste le maître de jeu qui va dire, voilà, ça va se passer comme ça. Soit, effectivement, il y a une confrontation, et là, effectivement, il va falloir des règles précises et éventuellement une image qui tourne bien aussi, ou tout du moins avoir quelque chose de crédible pour pouvoir générer derrière un combat qui peut être un peu visuel, parce qu'il faut aussi que le joueur de jeu de rôle se nourrisse un petit peu de son imaginaire, donc il s'imagine aussi dans ce combat.
Puis après, encore une fois, c'est une histoire de contexte et de ton, quoi. Qu'est-ce que tu en fais ? Elephant Man, John Merrick, c'est un monstre. Et voilà, là, on n'est plus du tout dans la problématique de faire peur ou...
Alexis, les zombies qui sont, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui sont de plus en plus crédibles aujourd'hui, les zombies, d'ailleurs certains y croient dur comme fer, c'est des bons monstres ou des mauvais monstres, graphiquement parlant ?
Dure question. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour du zombie. Là, je pense à la progression qui a été faite au cinéma entre la première mouture de George Romero, je crois qu'ici, il y aura la projection de La Nuit des Morts Vivants, là, de 68, en noir et blanc. À mon sens, en fait, il y a une grosse... Enfin, le comportement des premiers morts vivants modernes découle, en fait, de l'imagerie de la momie, c'est-à-dire le mort qui se réveille au ralenti, avec les bras tendus, ce genre de choses. Au cinéma, ils ont essayé de travailler. Enfin, il y a un truc que moi, je trouve intéressant, la progression... En fait, avec la notion de maladie, d'infection, de le rapport à la rage qui a été amorcé, par exemple, avec 28 jours après ou 28 semaines après, je sais plus, dans le premier, c'était 28 jours après, avec le côté, pour la première fois, de voir des zombies véloces et super hargneux. Si vous avez vu World War Z, là, justement, là, c'est la phase d'après où la rage, elle est encore plus prégnante et les mecs font des bonds, ils sont vraiment super, super énervés. Après, cela dit, au niveau des visuels, je vais pas dire qu'on a fait le tour, il y a des petites trouvailles ici et là dans certains films... Mais un zombie, un mort-vivant, quelque part, il faut toujours conserver la connexion avec l'être humain. Pour moi, il y a quelque chose de fascinant dans le sens malsain où les questions intéressantes qui sont posées là, c'est le rapport avec la mort et le fait voilà, que le zombie en question, c'est censé être... c'est pas un serial killer, c'est pas une créature venue d'un monde parallèle avec une brèche... venant des enfers ou je ne sais quoi. C'était... Juste avant, un être humain normal, ça peut être quelqu'un en fait, de sa propre famille, son fils, sa mère, sa tante, son copain, sa copine. Et justement, il y a ce rapport à l'humanité qui est extrêmement fort. Et du coup, à partir du moment où on commence à rajouter des bubons, des prothèses, des membres supérieurs dans certains jeux vidéo, quand on a besoin d'avoir des boss, là je pense au Resident Evil ou différentes franchises comme ça, bref, pourquoi pas. Mais là, on sort en fait, du cadre de zombie. Et à mon sens, en fait, un bon zombie, c'est un zombie où on n'a pas perdu l'humanité quelque part derrière, où c'est là où il est vraiment dérangeant et intéressant.
Bien.
Juste la petite anecdote là, pour l'illustration juste avant. Il y a un truc que moi j'ai toujours apprécié dans le jeu de rôle, ce que j'ai fait en jeu de rôle, c'est le fait de pouvoir me permettre de rajouter des petits clins d'œil. En général, quand je bossais, quand je faisais une petite illustration en noir et blanc, quand c'était un contexte urbain, je m'arrangeais toujours pour mettre dans les graffitis en fait, de fond des petits clins d'œil à des potes, à des gens que j'avais croisés, à un endroit où j'étais allé, tout ça. Ça, c'est une illustration qu'on a faite à. à deux avec l'illustrateur Benjamin Carré. Et le truc super rigolo, c'était la petite séance photo devant la machine à café. On bossait dans une boîte de jeux vidéo à l'époque, juste pour trouver les posings. Donc au premier plan, c'est moi là qui vomis en survêt. Et le deuxième, le zombie à droite qui se retourne vers nous, c'était Benjamin. Et il y avait un côté super drôle, justement, le fait de passer à l'acting quelque part, enfin, petite séance photo où on commence à jouer les zombies, où on se met un petit peu. On essaie de trouver la mise en scène. Voilà, c'était la petite anecdote, je m'excuse.
Bon, ben, il me reste sur cette anecdote, il me reste à vous remercier pour cet échange. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Je remercie l'organisation des Utopiales de façon générale et puis particulièrement le pôle ludique de nous avoir donné cette occasion de parler du jeu de rôle et du jeu vidéo. Et puis je vous indique qu'actuellement disponible dans les boutiques spécialisées, vous avez le numéro actuel en cours du magazine Dissident qui traite de jeux de rôle et de jeux vidéo. Voilà, si vous voulez prolonger la réflexion. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Merci.